Bonjour et bienvenue dans l'émission Amphi 23 destinée aux enseignants, aux étudiants et aux lycéens. Aujourd'hui consacrée au carnet de Léonard de Vinci conservé à la bibliothèque de l'Institut de France. Léonard de Vinci est né en Toscane, il a vécu à Florence, à Milan, à Rome, mais aussi en France où il passa les dernières années de sa vie en Touraine, près d'Amboise, au manoir de Cloux où il s'éteignit le 2 mai 1519. Son activité fut prodigieuse. Nous connaissons Léonard artiste peintre, Léonard passionné de technique, éternel curieux et observateur de la nature, Léonard musicien, compositeur et organisateur de fêtes. Il a cherché sa vie durant à concilier science et art. Son œuvre est immense, une trentaine de peintures dont plus d'un tiers a disparu, une masse considérable de manuscrits et de dessins, soit dans des cahiers, soit sur des feuilles séparées. L'ensemble est unique, il y aborde des branches du savoir dans un enchevêtrement impressionnant, mêlant dessins artistiques et observations scientifiques, annotations et croquis. Que nous reste-t-il de ce fabuleux héritage? Comment ces documents nous sont-ils parvenus? Comment ont-ils traversé 5 siècles d'histoire européenne? Pour soulever le voile sur le destin étrange d'une partie de l'œuvre de Léonard de Vinci, j'accueille aujourd'hui Mireille Pastoureau, directrice de la bibliothèque de l'Institut de France. La bibliothèque de l'Institut a en effet le grand privilège de conserver 12 carnets manuscrits de Léonard de Vinci. Mireille Pastoureau, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Nous allons donc nous intéresser aux documents, à leur contenu, à leur histoire, tenter de comprendre leur immense intérêt, leur particularité, en fait, leur exceptionnelle richesse. Mireille Pastoureau, je vois que vous avez amené avec vous un exemple de ces carnets, un fac-similé. Pouvez-vous nous le décrire?
Voilà, la bibliothèque possède 12 carnets de Léonard de Vinci. Celui-ci est le plus petit. Vous voyez, c'est un carnet de poche. Il tient dans la main, il a le format de la main. Et il se compose de feuillets de papier assez irréguliers parce que c'est un carnet fabriqué entièrement à la main.
Oui.
Et protégé par une reliure en parchemin. Donc ici, c'est de l'imitation. Donc il est très bien enveloppé dans sa reliure. Il y a un rabat avec une petite attache en cuir et un petit morceau de bois ou d'os qui permettait de le garder bien fermé.
Où conserve-t-on de pareils trésors?
Alors, dans les vieilles bibliothèques historiques comme la nôtre, les documents sont dans des magasins. Et le saint des saints dans les magasins, c'est une réserve. Mais comme les carnets de Léonard de Vinci sont plus précieux que tout, ils sont dans un endroit encore plus caché, ils sont à la banque, ils sont dans un coffre à la Banque de France, dans un souterrain.
Oui.
Et donc, ils sont là à l'abri de tout.
Alors, quand sont-ils montrés au public?
Alors, ils sont montrés lors d'expositions, qui sont assez rares, mais il y en a eu une en 2003 au musée du Louvre, sur les dessins de Léonard de Vinci. Il est vrai qu'ils n'avaient pas été montrés depuis 50 ans. Mais on peut également les voir sous forme de reproduction. Nous avons de magnifiques facsimilés, de CD-ROM, les images sont numérisées. Donc maintenant, ils peuvent être connus.
Ils sont accessibles. Et connus,
oui.
du public.
Oui.
Il faut prendre, lors de ces expositions, j'imagine, des précautions toutes particulières pour protéger les documents, pour ne pas les altérer. Donc, dans quelles conditions particulières peuvent-ils être exposés?
Voilà, tous les documents graphiques sont exposés dans des conditions de luminosité réduite parce que la lumière est tout à fait néfaste pour le papier, pour l'écriture et le dessin. Si on laisse une feuille au soleil derrière une vitre, par exemple, vous constatez qu'au bout de quelques semaines, la feuille est décolorée. Donc nous prenons de grandes précautions pour que la lumière ne dégrade pas ces documents et également l'atmosphère. Il faut surtout une atmosphère stable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de variation dans l'humidité, la sécheresse de l'air ambiant.
Ce sont donc des documents extrêmement fragiles qui nécessitent un soin et une vigilance constante. Mais d'où viennent ces carnets? Comment ont-ils échoué justement sur les étagères de la bibliothèque de l'Institut de France?
Alors, c'est une histoire tout à fait extraordinaire qui est liée à l'histoire de France et notamment à la Révolution et aux guerres qui ont suivi. Vous savez qu'il y avait tout un enthousiasme de la Révolution. On a propagé les idées de la Révolution dans les pays voisins. Il a fallu aussi que la France se défende. Et de ce fait, il y a eu diverses campagnes militaires, notamment en Italie, où on a créé une république sœur. Et à la tête de l'armée française, de la jeune République française, il y avait le général Bonaparte qui appartenait au tout jeune Institut National qui venait d'être créé, qui était un groupe de savants. Et le général Bonaparte a entrepris de rapporter en France les œuvres majeures appartenant en quelque sorte au patrimoine de l'humanité pour qu'elles puissent être étudiées, pour que les savants puissent s'en inspirer. Et c'est à cette occasion que les carnets de Léonard de Vinci ont été pris, il faut le dire, ils ont été pris à Milan, en Italie du Nord, où ils étaient dans une bibliothèque, où ils étaient un peu assoupis parce qu'ils n'étaient pas étudiés. On savait qu'ils existaient, mais on n'en connaissait pas le contenu. Donc, en 1796, Napoléon Bonaparte, assisté par un de ses lieutenants qui était un grand savant, qui était Gaspard Monge, un grand mathématicien, polytechnicien, qui recueillait des œuvres, Bonaparte et Monge ont rapporté ces carnets avec beaucoup d'autres œuvres, on les ont rapportés en France. Et les carnets ont été particulièrement confiés à l'Institut National qui venait d'être créé afin que les nouveaux membres de l'Institut les étudient.
Alors, comment l'arrivée de ces carnets en France a-t-elle été perçue par l'opinion de l'époque? Leur réputation, bien entendu, n'était pas à faire, mais comment les savants de l'époque ont-ils également jugé cet événement?
Alors, les savants de l'époque fondaient de grands espoirs parce que il faut nous mettre dans la situation de la fin du XVIIIe siècle. On ignorait encore beaucoup de choses. Il y avait des recherches qui étaient faites. Ce sont des carnets scientifiques, disons-le. Il y avait des recherches qui étaient faites notamment par un astronome qui s'appelait Jérôme Lefrançois de Lalande, qui étudiait la lumière de la Lune. Et on savait que Léonard de Vinci s'était intéressé à l'optique. Et donc, on fondait des espoirs dans ces carnets. On espérait trouver des révélations. Ça a été très difficile, il a fallu beaucoup de temps pour les déchiffrer, parce qu'en fait, si vous regardez l'écriture, la langue, etc., ils sont très difficiles à comprendre.
Oui, on ne peut pas les lire directement.
Non.
Il faut un œil très exercé déjà pour et une grande familiarité avec cette écriture si particulière sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Par rapport à ces peintures, les manuscrits de Léonard sont donc assez nombreux. Combien en a-t-on recensé dans le monde?
Alors, ça dépend comment on compte, si on compte en pages ou si on compte en unités. En pages, il y a plus de 5000 pages de manuscrits. Alors, je précise qu'un manuscrit, c'est un document écrit à la main, oui, qui n'est pas imprimé. Ne pas confondre avec un incunable ou un livre. Un manuscrit, c'est quelque chose qui est écrit à la main.
Qui est donc une pièce unique.
C'est une pièce unique, exactement. Léonard de Vinci n'a pas publié de livre, il n'a pas imprimé, il n'a pas eu le temps. Alors, on pense qu'il projetait une encyclopédie et que c'est la raison pour laquelle il a accumulé toutes ces notes diverses sur des sujets très variés. Donc, les manuscrits, par rapport aux peintures, sont très nombreux, plus de 5000 pages, mais en unité physique, en ensemble, on peut dire qu'il y a à peu près 10 ensembles conservés de par le monde, dans divers pays, Angleterre, France, Italie, Espagne. Une dizaine, on les appelle des codex, ces ensembles. Et il faut souligner que nos carnets de l'Institut sont les seuls à être restés intacts avec leur reliure. Ils n'ont pas été démontés, dépecés. Alors que dans les autres institutions, ou chez les collectionneurs privés, puisque certains en avaient, on a séparé les pages pour les classer, mettre ce qui était artistique ensemble, ce qui était scientifique, comme il y a divers sujets scientifiques, il y a l'anatomie, l'optique, l'hydraulique, les fortifications. On a essayé de faire des regroupements, de sorte que dans les autres institutions, maintenant, on ne sait plus comment étaient les carnets à l'origine. Alors que les nôtres, si vous voyez celui-ci, ont gardé leur reliure, ils sont restés exactement tels quels.
Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Dans son testament, Léonard de Vinci avait légué ses manuscrits à un de ses élèves, Francesco Melzi, avec une mission particulière, celle effectivement de destiner ses carnets à une publication probable. Pouvez-vous nous en parler ?
Tout à fait. Donc, il les a confiés. Alors, on pense qu'à l'origine, il y en avait à peu près 120. Et maintenant, moins d'un tiers a survécu. Parce que son disciple a conservé tous les manuscrits, mais après lui-même a eu des héritiers, des descendants, qui n'avaient pas le même souci de conserver tout l'ensemble et qui ont vendu, parce que Léonard de Vinci a toujours eu une grande valeur marchande. Donc, malheureusement, c'est l'histoire de tous les documents dans toutes les bibliothèques et dans les musées. Les manuscrits ont été dispersés, ils ont circulé, et actuellement, un seul est dans des mains privées, tous les autres sont dans des bibliothèques. Et celui qui est dans des mains privées a défrayé la chronique, si je puis dire, parce qu'il a été acheté par Bill Gates, le milliardaire américain, en 1994 pour 25 millions de dollars.
Peut-on les dater, ces documents ?
Alors, ils sont difficiles à dater parce que c'était des carnets de poche que Léonard de Vinci gardait dans sa poche, on peut dire, ou dans ses affaires. Il écrivait au jour le jour, il prenait quantité de notes, donc il ne prenait pas le soin de dire quand il écrivait. C'était quelque chose de très personnel pour lui. Cependant, les savants se sont attachés à les dater. Les nôtres datent en gros de 1487 à 1508. C'est donc une période de 19 ans, et c'est le milieu de la vie de Léonard, c'est-à-dire qu'au début, il a à peu près 40 ans. Donc c'est déjà un homme mûr qui a fait des réalisations. Et on peut dater ses carnets parce que on sait que Léonard a été ingénieur à Milan, puis à Florence pour César Borgia, donc avec les allusions aux travaux d'ingénieur qu'il a fait en Italie, on peut dater certains carnets.
On recoupe grosso son itinéraire.
Modo. Exactement.
Et on peut les dater.
Voilà, oui.
Alors, ouvrons le carnet que vous avez apporté et nous allons tenter de le décrire. Donc, un tout petit ouvrage.
C'est un petit ouvrage. Voilà, qui comporte à la fois du texte dans une petite écriture serrée et des petits dessins, des croquis un peu partout. Il faut savoir qu'à l'époque, le papier coûtait cher, donc on ne perdait pas de place. Il n'y a pas de marge, tout est rempli et quelquefois, il y a même plusieurs choses sur la même page, qu'il est revenu après coup, il a ajouté.
Et même, on oui. voit là un texte écrit... avec à la sanguine, recouvert d'un texte écrit à l'encre.
Voilà.
Donc vraiment, rien n'est perdu,
exactement.
Effectivement.
Voilà. Oui. La sanguine, c'est un crayon rouge qui servait souvent à faire des dessins, mais lui écrit aussi avec. Et autrement, c'est de l'encre. Alors, vous savez que Léonard, c'est connu, était gaucher. Il écrit de droite à gauche. Et il faut un miroir... si on veut pouvoir lire ces textes. Et une fois qu'on les a lus, on ne les comprend pas, parce que la langue qu'il emploie, c'est pas de l'italien classique que nous connaissons. C'est un vieux dialecte lombard de l'Italie du Nord, qu'il a un petit peu adapté. Il y a quelques mots de latin, et il y a beaucoup d'abréviations, parce que nous sommes ici à l'époque de la Renaissance, après le Moyen-Âge, et pour éviter de passer trop de temps à écrire, on abrège beaucoup de mots. Les gens ont l'habitude de ça, mais nous avons perdu cette habitude.
Et il devait avoir ses propres abréviations.
Exactement. Tout est un peu codé aussi. Ce sont des carnets personnels. Donc, il y a des choses qui étaient destinées à lui seul, mais que les savants, maintenant, bien sûr, arrivent à déchiffrer.
Quel est le thème principal de ce carnet ?
Alors, ce carnet, qui est le plus ancien des carnets de Léonard, a donc des thèmes scientifiques et techniques. Il ne faut pas oublier que Léonard de Vinci, c'est un très grand peintre, mais c'est un grand ingénieur aussi. Donc, il s'intéressait aux forces de l'eau. On lui avait demandé de dériver des courants. Donc, on a des croquis sur les tourbillons de l'eau, la force de l'eau. Mais on a également des petits mots de latin. Il apprenait le latin. Léonard de Vinci était un autodidacte. Or, à l'époque, les livres savants étaient écrits en latin. Et il souhaitait pouvoir les comprendre et les lire. Donc, à l'âge de 40 ans, ans, il a commencé à étudier le latin.
Et sur ce petit carnet, on trouve et voilà, des petites formules
exactement,
grammaticales.
Et voilà, il des aides-mémoires pour lui, parce que il apprend, il avait un appétit de connaissances extraordinaire. Et on trouve également des petits animaux. Ça, à la Renaissance, les animaux ont une grande importance. Ils ont des symboles, les animaux. On les trouve dans les peintures, on les trouve dans les manuscrits. Et donc, il dessine, voilà, ici, on a un petit chien.
Alors, qui est vraiment tout petit, vraiment, voilà. Là, il y a une véritable maîtrise du dessin. Le dessin doit faire à peu près 3 cm de long sur 1 de large. Il est d'une grande précision. Et ce petit chien, effectivement...
Mais dans tous ces dessins de Léonard de Vinci, on voit un coup de crayon extraordinaire. Comme tous les grands artistes, et comme Picasso, en quelques traits, il rend un personnage ou un animal vivant.
Sur ce feuillet, sur le fameux feuillet 50 au verso,
oui.
Léonard a abordé à la fois des croquis, un dessin, un emblème, sur des thèmes complètement différents.
Oui, tout à fait. C'est très représentatif de ses carnets. C'est ce qui explique qu'ils sont difficiles à comprendre. Nous avons donc le croquis d'une rivière dont il a détourné le cours. Nous avons une sorte de charrette, des mots d'optique, du texte à la fois noir, rouge et des armoiries avec des dragons. On est donc bien situé dans son époque, avec l'importance des symboles, mais en même temps avec quelqu'un qui est concret, qui a du sens pratique et qui cherche constamment à réaliser quelque chose d'effectif sur le terrain.
Donc on voit aussi comme science et art ici sont ici mêlés quasiment presque toutes les pages de ce petit carnet. Mireille Pastoureau, merci de nous avoir décrit, expliqué l'originalité et l'intérêt exceptionnel de ces carnets, véritable trésor de la bibliothèque de l'Institut, mais également du patrimoine culturel mondial. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.